France Inter, franceinter.com.
Je considère que mon devoir sacré, c'est de souder le peuple russe autour d'objectifs clairs. Nous avons une seule patrie, un seul peuple et un avenir commun.
Ans d'histoire. Mon devoir sacré est de souder le peuple russe autour d'objectifs clairs. Nous avons une seule patrie, un seul peuple et un avenir commun. C'est avec ces mots, on vient de l'entendre, qu'il y a 8 ans, Vladimir Poutine devenait pour la première fois le président de la Russie. Élu dès le premier tour de l'élection présidentielle du 26 mars 2000, réélu triomphalement en 2004, mais ne pouvant, selon la Constitution, se présenter une troisième fois, Poutine quittera ses fonctions après l'élection de dimanche prochain, mais sans quitter pour autant le pouvoir, puisqu'il s'est déjà autoproclamé Premier ministre du candidat qu'il a lui-même choisi et qui sera élu sans surprise. Dmitri Medvedev, aussi peu connu que Poutine l'était lui-même lorsqu'en 1999, le président russe de l'époque, Boris Eltsine, en avait fait son successeur.
J'ai décidé de vous donner le nom de la personne qui, d'après moi, est capable de consolider la société, Vladimir Poutine.
Un Premier ministre chasse l'autre en Russie, ça devient une habitude. Pour la 6e fois en 18 mois, Boris Eltsine a limogé son Premier ministre ce matin. Le nouveau Premier ministre s'appelle Vladimir Poutine. Natacha Tuilier, vous êtes en direct avec nous de Moscou. Bonsoir.
Bonsoir.
Quelques mots d'abord sur le nouveau venu. Il vient des services secrets.
Oui, pour être honnête, Vladimir Poutine est peu connu, surtout du grand public. Il est réputé pour être efficace, mais peu bavard, ce qui n'est pas étonnant pour un ancien espion. Ce qui ressort de la carrière de Vladimir Poutine, en fait, en dehors de son efficacité, c'est son haut degré de loyauté.
C'était il y a 8 ans, la première fois qu'on entendait parler de Vladimir Poutine en France, le jour où Boris Eltsine faisait de lui son successeur. Daniel Vernet, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous en direct d'Autriche. Vous êtes directeur des relations internationales du journal Le Monde, dont vous avez été le correspondant en Russie et où, dimanche prochain, l'élection présidentielle désignera le successeur de Vladimir Poutine, qui ne peut se représenter, je l'ai dit, mais qui a choisi le candidat qui sera très certainement élu, Dmitri Medvedev, un peu comme il y a 8 ans d'ailleurs, c'est Boris Eltsine qui avait désigné lui-même son successeur. On a l'impression, Daniel Vernet, qu'au fond c'est un peu le même scénario qui se reproduit.
C'est un peu le même scénario, mais en même temps il y a une différence, c'est que en 2000, quand Eltsine a choisi Poutine, il prenait un risque. Poutine était, comme il a été dit, très peu connu. Il avait été Premier ministre simplement pendant quelques mois. Et donc, son élection n'était absolument pas assurée. Cette fois, l'élection de Dmitri Medvedev paraît absolument certaine dimanche prochain. Il aura certainement autour de 60 à 70% des voix, un petit peu moins que Poutine il y a 4 ans pour bien montrer la différence dans la hiérarchie entre les deux hommes, mais tout a été fait pour que cette élection ne crée aucune surprise.
Alors Medvedev est aussi peu connu, vous l'avez dit, que l'était Poutine à l'époque. Personne n'avait entendu parler de Poutine, et pour cause, puisqu'il sortait du FSB, l'ex-KGB. Il avait été, vous l'avez dit, Premier ministre. Et pourtant, en mars 2000, c'est avec 53% des voix, c'est-à-dire dès le premier tour, que Poutine a été élu. Comment expliquer qu'un inconnu puisse en si peu de temps obtenir la majorité des voix en Russie, Daniel Vernet ?
Depuis quelques mois, il était en effet Premier ministre et il avait mené la deuxième guerre de Tchétchénie. Et c'est sur cette base-là qu'il a été connu, qu'il s'est fait connaître, qu'il est devenu une sorte de héros pour les Russes. C'est la première explication. La deuxième explication est sans doute qu'après les années Eltsine, les Russes avaient besoin de calme, qu'il voulait une assurance pour les années suivantes. Et comme bien souvent en Russie, c'était vrai du temps de l'Union soviétique, mais c'est vrai même dans la Russie du post-communisme, les élections ne sont pas faites pour choisir un candidat, un dirigeant, elles sont faites pour confirmer le choix qui a été fait dans les coulisses par les petits cénacles. C'était le cas un peu en 2000, avec encore une fois l'incertitude qui planait à ce moment-là. Ce sera le cas encore cette fois avec une certitude d'élection pour Medvedev.
Quand vous parlez de petits cénacles, c'est les moyens dont ils disposent grâce à l'oligarchie de l'époque, l'oligarchie de Boris Eltsine, Daniel Vernet. Qui soutient
oui,
activement Poutine.
Ce qu'on appelait à l'époque la famille. La famille, c'était la famille de Yeltsin, parce que sa fille était très active en politique, mais c'était la famille au sens très large du terme, avec tous les conseillers, ceux qui ont profité du système Yeltsin, les oligarques, etc., qui avaient choisi Vladimir Poutine parce qu'ils pensaient que Poutine serait une garantie du maintien de leurs privilèges, et surtout, et ça c'était très important pour Yeltsin, Poutine s'était engagé à ne pas permettre qu'il y ait des poursuites contre Yeltsin alors qu'un certain nombre de manipulations financières avaient été mises à jour.
Poutine donc qui était élu le 26 mars 2000 et qui entrait solennellement au Kremlin pour y prêter serment le 7 mai.
Vladimir Vladimirovich Poutine.
Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас принести присягу народу России.
Honorable Vladimir Vladimirovich, je vous prie de prêter serment au peuple russe.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Je jure que dans mes fonctions de président de la Fédération de Russie, je respecterai et préserverai les droits et les libertés de l'homme et du citoyen.
Человека и гражданина.
Президентский полк.
Longue vie, camarade président de la Fédération de Russie.
Je peux vous assurer que seuls les intérêts de l'État vont diriger mes actes. Je vous promets de travailler honnêtement et dans la transparence. Je considère que mon devoir sacré, c'est de souder le peuple russe autour d'objectifs clairs. Nous avons une seule patrie, un seul peuple et un avenir commun.
Et c'était Vladimir Poutine prenant ses fonctions le 7 mai 2000, il y a 8 ans, s'engageant, on vient de l'entendre, à respecter les droits de l'homme et les libertés des citoyens et de travailler dans la transparence. Et en même temps, Daniel Vernet, parce que ça, tout ça, c'était des formules un peu convenues, c'est un homme qui parle aussi très franchement de démocratie dirigée, de verticale du pouvoir, de dictature même de la loi, qui sont des valeurs assez contradictoires.
L'objectif principal de Poutine, dès sa prise de fonction, c'est en fait le rétablissement de l'autorité de l'État et on pourrait même dire la reconstruction d'un État fort pour la Russie. Et toutes ces formules de démocratie dirigée ou de démocratie souveraine, la traduction varie de temps en temps, de verticale du pouvoir, de dictature de la loi, étaient une façon d'exprimer ou de masquer cet objectif principal après les années de chaos, d'anarchie, d'une espèce d'autoritarisme débridé et en même temps totalement incontrôlé de Yeltsin. Poutine veut restaurer l'État russe tel qu'il l'a connu un peu du temps de l'Union soviétique et tel qu'il a existé dans l'histoire.
Vous voulez dire qu'il se distingue d'emblée de celui, au fond, qui l'a propulsé au pouvoir ?
Tout à fait.
Quels étaient ses sentiments vis-à-vis d'Eltsine, justement, réels ?
Je crois que ses sentiments vis-à-vis d'Eltsine étaient un profond mépris pour l'homme totalement imprévisible, porté sur la boisson, qui prenait des décisions allant dans tous les sens et qui, en tout cas, dans l'esprit de Vladimir Poutine, avait abaissé la Russie et avait accepté que la Russie perde son rang international. Et je crois que même si Poutine est apparu quand il était le premier ministre de Yeltsin pendant 3-4 mois comme un serviteur fidèle, il avait déjà la perspective de changer radicalement le cours de la politique russe.
Et pour cela, de prendre le contrôle de tous les rouages politiques et économiques de l'État, mais d'abord des médias. Voici comment une émission satirique de la télévision Kouklik, et l'équivalent de nos guignols, présentait cette mainmise de Poutine sur l'information avec deux marionnettes, l'une représentant Poutine en fantomas et l'autre un journaliste célèbre en Russie, Evgeny Kiselyov.
Qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai lu votre article à mon sujet. Je ne l'aime pas, écrivez-en un autre. Alors vous êtes contre la liberté de la presse ? Non, je suis pour, mais vous obéissez ou je ferme votre journal.
Je l'ai vu à la TV, c'est Poutine qu'il me faut, ce sont les paroles de cette chanson au moment où Poutine mettait la main sur les médias. La Russie de Poutine, Daniel Vernet, eh bien ça reste une démocratie certes, mais l'opposition, elle est autorisée, les partis aussi, mais ils perdent tous les moyens d'expression ou presque.
Oui, en fait c'est une démocratie extrêmement dirigée, extrêmement contrôlée.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui.
Voilà, les moyens d'expression sont aux mains du pouvoir ou sont aux mains des amis de l'administration présidentielle, pour ne pas dire aux mains des amis du président. C'est surtout vrai pour les moyens audiovisuels et la télévision, qui, dans ce vaste pays, est un des moyens d'information principal. Il reste quelques îlots de liberté dans la presse écrite, comme un journal dont on parlera peut-être tout à l'heure, celui de d'Anna Politkovskaya. Mais dans l'ensemble, les médias ont été mis au pas. Ça fait partie de ce contrôle que le Kremlin, sous Poutine, a établi sur la plupart de tous les instances de la société qui pouvaient avoir une certaine autonomie par rapport au pouvoir présidentiel. C'est vrai des gouverneurs des provinces qui étaient du temps de Yeltsin, qui étaient élus, qui maintenant sont nommés. C'est vrai aussi pour les maires des grandes villes. Enfin, c'est vrai pour à peu près toutes les institutions.
Et alors, qui passe entre les mains d'une nouvelle oligarchie ? On n'a pas saisi tout de suite au début des années 2000, mais toute la hiérarchie, toute l'oligarchie de l'époque d'Eltsine disparaît. C'est Boris Berezovsky qui est exilé en Angleterre, Mikhail Khodorkovsky qui est condamné à 9 ans de prison, alors qu'il représentait une des plus grosses entreprises énergétiques de Russie, alors qu'inversement, il place vraiment une classe nouvelle, de nouveaux oligarques qu'ils mettent en place, qui viennent d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux du FSB, de l'ex-KGB également, Daniel Vernet.
Tout à fait. On a dit que Poutine s'était attaqué aux oligarques, c'est faux. Il a créé en effet cette nouvelle oligarchie, il s'est attaqué aux oligarques qui étaient dans l'entourage de Yeltsin, mais il a créé une nouvelle classe ou un nouveau groupe d'oligarques. Ce sont des gens qui sont à la fois dans la bureaucratie de l'État, parfois très haut placés dans l'administration présidentielle, et qui sont en même temps dans les conseils de surveillance, dans les directions des grandes sociétés russes, notamment dans le secteur énergétique, qui ont été sinon renationalisées, du moins reprises sous le contrôle de l'État. C'est le cas de Medvedev, qui est dans la direction de Gazprom, par exemple, et d'autres membres de l'administration présidentielle. Et ainsi, le Kremlin, par l'intermédiaire de cette nouvelle oligarchie, a repris le contrôle de l'ensemble, non pas de l'économie, mais de la base industrielle, énergétique de la Russie.
Oui, des secteurs les plus importants, et en premier lieu, vous l'avez dit, le pétrole et le gaz, l'énergie, avec cette société Gazprom, qui est vraiment un enjeu absolument considérable. C'est là-dessus, d'ailleurs, que reposent aussi les succès, même s'ils sont limités, si tout le monde n'en profite pas, les succès, quand même, de la politique économique de Poutine, grâce notamment à l'augmentation du prix de l'énergie.
Tout à fait. La croissance de l'économie russe au cours des dernières années est assez remarquable, assez spectaculaire, mais en même temps, elle est assez fragile. Elle repose uniquement sur l'exportation des hydrocarbures, pétrole et gaz, et de quelques matières premières. Il y a un grand déficit en investissement dans les industries de transformation et dans les industries de consommation. De même, d'ailleurs, qu'un grand déficit d'investissement dans ses ressources énergétiques, si bien que dans quelques années, la Russie sera incapable de faire face à ses obligations d'exportation, c'est le cas par exemple pour le gaz, et en même temps aux besoins de la population russe. Donc là, il y a un besoin énorme. On dirait que tout se passait comme si, au cours des dernières années, la Russie avait vécu sur une rente énergétique sans trop se soucier de l'avenir. Et c'est, je crois, la grande faiblesse de la politique économique menée par Poutine. Mais en même temps, il y a eu des résultats immédiats qui ont permis une élévation du niveau de vie et donné satisfaction à une grande partie de la population russe.
Alors, résultat aussi obtenu dans le domaine intérieur par la brutalité de la politique de Poutine en Tchétchénie. Personne d'ailleurs ne l'a fait remarquer en Russie, faute justement de médias pour le faire. Si, il y a quelques journalistes, on en parlera, qui le font. Mais s'il y a aussi ce journaliste français qui, en 2002, à Genève, avait posé la question à Vladimir Poutine, dont la réponse avait absolument stupéfait les chefs d'État et de gouvernement qui étaient réunis ce jour-là pour un sommet de l'Union européenne.
Don't you think that by trying to eradicate terrorism in
Chechnya, en tentant d'éradiquer le terrorisme en Tchétchénie, ne craignez-vous pas d'éradiquer la population civile de Tchétchénie?
Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом,
si vous voulez devenir un islamiste radical et si vous voulez vous faire circoncire, venez à Moscou. Nous sommes multiconfessionnels. Nous avons de très bons spécialistes. Je peux même vous en recommander un pour l'opération. Il fera en sorte que rien ne repousse.
Incroyable langage de Poutine répondant à ce journaliste français. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était franc. Ça a stupéfait d'ailleurs toute l'assistance qui était là. Et c'était rare d'ailleurs qu'en public on évoque cette affaire tchétchène, qui elle-même était réglée avec une grande brutalité au même moment, Daniel Vernet.
Tout à fait. Alors, depuis 1999, Poutine, en tant que Premier ministre, avait relancé la guerre en Tchétchénie. On a parlé de la deuxième guerre de Tchétchénie, qui la première avait été réglée par un compromis entre les Russes et les Tchétchènes. Et Vladimir Poutine a fondé une partie de sa popularité sur cette guerre, sur cette deuxième guerre de Tchétchénie, qui a permis effectivement d'en finir avec le mouvement séparatiste, mais au prix d'un nombre incroyable de victimes civiles, de la destruction de plusieurs villes de Tchétchénie, dont la capitale Grozny, et les Russes ont commis ces forfaits à l'abri du regard de la communauté internationale. Il était très difficile pour les journalistes occidentaux de se rendre en Tchétchénie. Certains l'ont fait clandestinement pour qu'on puisse rendre compte de la brutalité de la répression russe. Certains journalistes russes aussi, au péril de leur vie, ont continué à parler de la guerre en Tchétchénie, mais ça a été de plus en plus difficile.
On en parle d'autant moins d'ailleurs qu'elle est devenue progressivement une guerre civile entre Tchétchènes pro-russes et islamistes, ce qui est terrible d'ailleurs, parce que je crois que le bilan est considérable. Je crois 200 000 morts pour 1 million d'habitants. Enfin, c'était absolument épouvantable. Si les dirigeants occidentaux, États-Unis compris d'ailleurs, se taisent, c'est parce que il y a justement le pétrole, notamment pour ce qui concerne les pays européens. C'est ça, au fond, qui les rend un peu muets et qui continue à leur faire entretenir de bons rapports avec la Russie de Poutine, Daniel Vernet.
Il y a deux raisons. La première, c'est que, en effet, Vladimir Poutine, notamment après les attentats du 11 septembre 2001, s'est présenté comme un défenseur des valeurs de la civilisation contre le fondamentalisme islamique et a considéré ou a fait en croire que tous les Tchétchènes qui voulaient l'indépendance étaient des fondamentalistes islamiques. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est en effet la dépendance très forte de l'Europe occidentale, de l'Union européenne, par rapport au pétrole et surtout par rapport au gaz russe. Alors cette dépendance varie selon les pays, mais enfin elle est en moyenne de 25 à 30% pour l'ensemble de l'Union européenne. Et en effet, cette dépendance par rapport aux livraisons énergétiques russes rend les Occidentaux plutôt prudents dans la manière dont ils s'expriment sur bien l'évolution du système politique en Russie. Il y a quelques exceptions. Une des grandes exceptions, et il faut le souligner, je crois, c'est la chancelière allemande Angela Merkel.
Oui, parce que c'est une arme, hein, le pétrole pour Poutine. Il fait pression sur tous les pays qui achètent son pétrole et son gaz, comme d'ailleurs ce fut le cas en Ukraine au moment de la Révolution Orange, ce qui avait provoqué en 2006 cette déclaration du vice-président des États-Unis, Dick Cheney.
No legitimate interest is served when oil and gas.
Il n'y a aucune légitimité à utiliser le pétrole et le gaz comme outil d'intimidation ou de chantage. Personne ne peut violer l'intégrité territoriale d'un voisin ou empêcher des mouvements démocratiques. Pourtant, aujourd'hui en Russie, dans différents domaines de la société, comme la religion, les médias, les droits de l'homme et les partis politiques, le gouvernement a justement restreint les droits de son peuple. Vladimir Poutine. Le budget militaire des États-Unis est 25 fois supérieur au nôtre. Leur maison est une forteresse. Cela veut dire que nous devons construire solidement notre maison, parce que nous voyons, nous savons ce qui se passe dans le monde.
Et on entend l'hymne soviétique redevenu en 2000 l'hymne de la Russie. C'est Poutine qui l'avait souhaité. Est-ce que c'est pas ça, Daniel Vernet, qui explique aussi la popularité qu'il a quand même dans son pays, sinon à l'étranger, le sentiment qu'ont les Russes qu'avec lui, qu'avec Poutine, eh bien leur pays est redevenu la grande puissance qu'elle était à l'époque de l'Union soviétique et à l'époque de la guerre froide?
C'est en effet un des éléments forts qui explique la popularité de Poutine en Russie. Il y a donc la réussite économique avec toutes les limites dont on a parlé tout à l'heure, et il y a aussi cette idée que, eh bien, la Russie a retrouvé son rang, pas tout à fait peut-être le rang qu'avait l'Union soviétique au temps de la guerre froide, comme partenaire quasi égal des États-Unis, mais que la Russie est devenue une puissance avec laquelle il faut compter et avec laquelle il faut négocier pour obtenir des avantages dans les relations internationales, que les États-Unis ne peuvent plus faire tout ce qu'ils voulaient, dicter leur loi, comme ils l'ont fait. C'est en tout cas l'interprétation que Vladimir Poutine a en quelque sorte convaincu les Russes d'adopter, comme les États-Unis l'ont fait au lendemain de la chute du communisme au début des années 1990. À propos de l'hymne que l'on vient d'entendre, qui est en effet la musique de l'hymne soviétique, peut-être il est bon de rappeler une petite anecdote qui est, je crois, très significative de l'évolution de la Russie sous Vladimir Poutine. Il y a donc la musique de l'hymne soviétique, ce sont cependant des nouvelles paroles, mais il se trouve que ces nouvelles paroles ont été écrites par un vieux monsieur qui s'appelle Sergueï Mikhaïlov, qui est le père des cinéastes plus connus que lui, et ce poète qui a été un prix Staline avant la Deuxième Guerre mondiale déjà, avait écrit les paroles de l'hymne soviétique du temps de Staline, a écrit les paroles de l'hymne russe du temps de Yeltsin et les paroles de l'hymne russe du temps de Poutine.
Parce que effectivement, la Russie d'aujourd'hui semble damner le pion, en tout cas dans bien des questions, qu'il s'agisse du Kosovo, qu'il s'agisse de l'Iran, qu'il s'agisse du Moyen-Orient, un peu comme à l'époque de la guerre froide. D'ailleurs, elle dispose aussi d'une armée qui devient conséquente, Daniel Vernet.
Oui, mais je crois que pour l'instant, en tout cas, le pouvoir de la Russie est plutôt un pouvoir de nuisance qu'une capacité d'affirmation sur la scène internationale. Vous avez mentionné le Kosovo. En effet, la position russe sur le Kosovo, le soutien apporté par la Russie à la Serbie, va gêner considérablement les Occidentaux dans la région, dans les Balkans. Mais en même temps, la Russie n'est pas en mesure de faire des propositions pour sortir de ce dilemme kosovar et n'est pas en mesure d'imposer sa propre solution. Donc il y a une forte capacité de nuisance de la Russie, mais pas encore, peut-être d'ailleurs ce n'est pas l'objectif des dirigeants russes, pas encore une force de proposition qui rendrait la Russie, disons, attractive sur le plan international, comme l'a pu l'être l'Union soviétique pour un certain nombre de régimes dans le tiers-monde, par exemple. Et il faut ajouter peut-être que certains milieux dits libéraux en Russie, y compris d'ailleurs au sein du gouvernement, considère que la politique étrangère qui a été menée jusqu'à maintenant par Vladimir Poutine va à l'encontre des intérêts fondamentaux de la Russie à long terme, car l'intérêt de la Russie à long terme, c'est de s'insérer dans la globalisation et d'avoir des échanges économiques d'un pays moderne et pas seulement une économie fondée sur l'exportation des ressources énergétiques et finalement l'exploitation du sous-sol.
Ce qu'on lui reproche aussi, on s'en doute, et notamment en Occident, peut-être plus qu'en Russie, où on ne monte pas en épingle la façon très brutale d'un régime qui n'hésite pas à éliminer tous ceux qui s'opposent encore à lui, comme le faisait en 2006 Anna Politkovskaya quelques semaines avant d'être assassinée. À Moscou, Anna Politkovskaya.
C'est terrifiant aujourd'hui en Russie, tuer quelqu'un n'est rien. C'est devenu sans importance. Cela me fait peur. Dans mon pays, on tue, et puis on oublie.
Anna Politkovskaya a été abattue par balle en rentrant dans son immeuble au centre de Moscou. D'après le parquet qui a ouvert une enquête pour meurtre avec préméditation, la journaliste a été tuée par un inconnu habillé en noir. Selon l'habitude dans les meurtres sur commande, l'arme du crime, un revolver et 4 balles ont été laissées en évidence à côté du cadavre. Moscou, Bruno Caden, France Inter.
Mon nom est Alexandre Litvinenko. Je suis un ancien officier du KGB. À la question « Qui a tué Anna ?», je vous réponds directement « C'est Poutine qui l'a tuée. » Personne n'oserait toucher à une journaliste aussi connue qu'Anna Politkovskaya sans l'accord du président russe. Pour le Kremlin, Anna était un ennemi politique et on l'a tuée pour ça. Voilà, c'est Poutine qui a tué Anna.
Et c'est aussi Poutine qui aurait fait tuer l'homme que l'on vient d'entendre, Alexandre Litvinenko, mort en Angleterre, empoisonné sans doute par les services secrets russes. C'est terrible, Daniel Vernet, d'autant plus qu'on pense que ce système peut perdurer, puisque, encore une fois, l'élection annoncée de M. Medvedev devrait prolonger le pouvoir de Poutine et du système qu'il a mis en place il y a 8 ans.
En effet, c'est terrible parce que de deux choses l'une, ou bien Poutine est directement responsable des deux assassinats dont vous venez de parler, Politkovskaya et Litvinenko, ou bien il n'en est pas responsable, mais ça veut dire que les services de sécurité ont à peu près une marge de manœuvre infinie sous le régime de Poutine. Donc dans les deux cas, c'est une appréciation, c'est une condamnation de ce système. En ce qui concerne Medvedev, je pense qu'il faut être prudent. En effet, il apparaît comme une création de Poutine, mais après tout, on a vu des pattes de transition qui s'émancipaient par rapport à leur mentor.
Poutine lui-même, il y a 8 ans.
Et Poutine par rapport à Yeltsin. Et déjà dans la campagne électorale, enfin si on peut parler de campagne électorale, Dmitri Medvedev a fait entendre une petite musique différente de celle de Poutine, mais on sait que Poutine sera pendant quelque temps au moins le premier ministre de Dmitri Medvedev et vraisemblablement il veillera à la continuité de sa politique. Donc les chances d'une nouvelle ouverture en Russie sont faibles, mais elles ne sont pas inexistantes.
Merci Daniel Vernet. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre publié en 2002. Enfin, c'est en fait la documentation française et l'IFRI qui ont publié De vous, la Russie, de Vladimir Poutine. Vous avez pu entendre des archives extraites des documentaires suivants. La prise du pouvoir par Poutine de Paul Mitchell et Tania Rachmanova, diffusée le 20 février dernier sur Arte, et Le système Poutine de Jean-Michel Carré et Gilles Emery, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Julien Dumont, Céline Bonhomme, Emmanuel Fournier, Sophie Gillery, Claire Destacan et Caroline Chausset. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion du 60e anniversaire de sa mort, Antonin Artaud.